Religion du monde, Geneviève Delru.
Si l'appel à témoignages a permis d'identifier environ 2700 victimes, et si l'enquête archivistique a permis d'en dénombrer environ 4800, l'enquête menée en population générale par l'INSERM avec l'appui de l'IFOP conduit à estimer dans la population française âgée de plus de 18 ans, à 216 000, le nombre des personnes qui ont été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce mardi 5 octobre restera une date historique dans les annales de l'Église de France avec la remise du rapport de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, par son président Jean-Marc Sauvé, avec ce chiffre choc, 216 000 personnes victimes de violences sexuelles perpétrées au sein de l'Église, chiffre reçu comme une déflagration qui ne devait pas en rester là.
Si l'on ajoute maintenant à ce nombre de 216 000, des victimes des laïcs en mission d'église, salariés ou bénévoles, par exemple dans l'enseignement religieux, catéchisme ou aumônerie, dans les établissements d'enseignement catholique ou les mouvements de jeunesse, le nombre des victimes passe de 216 000 à 330 000. Plus de 34% des abus dans l'Église catholique sont ainsi le fait de laïcs. Il faudra analyser plus en détail comment la part des laïcs a évolué dans le temps. Par leur ampleur, ces nombres, 216 000 et 330 000, sont bien plus que préoccupants. Ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite. Ils appellent des mesures très fortes.
Et selon le rapport de la CIAZ, les violences sexuelles sur mineurs dans l'Église catholique entre 1950 et 2020 représentent 4% des violences sexuelles en France, si l'on s'en tient à celles commises par des clercs et des religieux, et à 6% donc si l'on prend en compte les laïcs au sein d'institutions liées à l'Église. C'est donc la conclusion accablante de ce rapport de 485 pages couvrant 2 années et demie de travail de cette commission interdisciplinaire qui a cherché à prendre la mesure de ce qui s'est passé depuis les années 50 en analysant les mécanismes qui ont abouti à ce résultat. À partir des données puisées dans les archives et celles reçues suite à l'appel à témoignages, les prêtres abuseurs sur cette période, donc de 1950 à 2020, seraient entre 2900 et 3200, ce qui donnerait sur cette période le pourcentage de 3% de clercs abuseurs, sachant que la période la plus forte se situe entre 1950 et 1969. Restons encore quelques instants dans les chiffres. La commission Sauvé fait état des résultats de l'enquête en population générale de l'IFOP et de l'INSERM, menée auprès de 28 000 Français de plus de 18 ans, qui estiment à 5,5 millions ceux qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, soit plus de 10% de Français, le premier lieu de ces violences étant de loin la famille.
Les travaux menés confirment d'abord l'ampleur des violences sexuelles dans notre société. 5,5 millions de personnes aujourd'hui majeures ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. C'est 14,5% des femmes et 6,4% des hommes, ou encore 10,7% du total des personnes majeures. C'est dans les familles et les cercles amicaux que les violences sont de très loin les plus nombreuses. Cette situation est connue, elle n'en reste pas moins intolérable et elle appelle de vigoureuses mesures de politique publique.
À noter au passage que la commission Sauvé doit servir de modèle d'action pour la toute récente commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, co-dirigée par le juge Édouard Durand. En tout cas, atmosphère lourde pour cette remise du rapport de la CIAZ, cette commission indépendante qui a permis aux victimes de s'exprimer. Si le pape François a dit sa honte, son immense chagrin, sa douleur face aux blessures des victimes, il faut relever que pour les membres de la CIAZ, ce travail de vérité a été très éprouvant. Sœur Véronique Margron, membre de la CIAS, présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, pourtant très active depuis des années dans l'écoute des victimes, peinait à cacher son grand désarroi.
Enfin, face à un désastre, je ne vois pas comment un désastre ne provoquerait pas des chocs intimes et ecclésiaux, c'est-à-dire et intimes dans les personnes. Moi, chacun d'entre nous est dans les institutions, qu'il s'agisse des congrégations religieuses, des églises, des diocèses, ou en tout cas de l'Église en France. Bien sûr, c'est les deux en même temps. Bien sûr, le choc, il est autant intime qu'il doit être en même temps institutionnel.
Vous parlez de crimes de masse.
Moi, je parle de crimes massifs, parce que les crimes de masse sont des crimes... moi, je suis allée au Kivu, on est face à des crimes de masse, mais les crimes de masse, il y a un groupe armé, où il y a un État, où il y a une partie qui veut la mort. Là, on ne peut pas dire cela de l'Église. Mais par contre, on peut bien parler de crimes massifs. C'est-à-dire, quand vous êtes à pas loin de 300 000 victimes, plus les victimes des personnes laïques travaillant dans l'Église, enfin, c'est totalement effroyable. Donc, si ça, c'est pas un crime massif, je ne sais pas comment appeler un crime massif.
La recherche dans les archives a recensé 4832 victimes d'agressions sexuelles, donc sur cette période 1950-2020. Philippe Portier, figure bien connue de la sociologie des religions en France, était en charge de cette enquête au sein de la CIAS.
Le travail sur les archives, il a été évidemment très, très long, très approfondi. Il s'est agi d'une part d'aller voir les archives de l'Église au niveau local, dans les diocèses et dans les instituts religieux, les ordres et congrégations, et puis d'autre part au niveau central, du côté du Centre national des archives de l'Église de France. Ça, c'est un premier bloc. Et puis le second bloc consiste dans les archives judiciaires et policières, les archives du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, qui relèvent des pièces extrêmement intéressantes aussi pour essayer de comprendre la logique de l'abus, l'ampleur de l'abus, les acteurs de l'abus dans le cadre de la période qui nous était assignée, 1950-2020.
C'est un scannage en quelque sorte absolument complet. Est-ce que l'on peut dire que vous avez réussi à balayer tout ce qui pouvait exister en la matière?
Alors, on a réussi à balayer tout ce qui pouvait exister dans le cadre des 31 diocèses et des 15 instituts que nous avons vus, sachant que ces diocèses et ces instituts représentent, du point de vue de la population des abuseurs et des abusés, l'énorme majorité des diocèses et des instituts français. De ce point de vue, il y a quantitativement déjà une assurance de vérité. À quoi s'ajoute qualitativement le fait que les fonds archivistiques de l'Église nous ont été très largement ouverts, que l'Église, d'une certaine manière, après une négociation qui a pu être rude dans un premier temps, nous a donné un accès pratiquement total à l'ensemble des archives, non seulement des archives collectives, mais des archives personnelles dont elle disposait.
Parmi les 45 recommandations de la CIAS, la reconnaissance essentielle du statut de victime pose à l'Église la question de l'indemnisation. Dans un discours au vitriol adressé à l'Église de France, François Devaux, le cofondateur de l'association La Parole Libérée, né à Lyon dans le cadre de l'affaire du père Prénat, a martelé avec force l'exigence d'une réparation financière.
En attendant, messieurs les évêques, que vous terminiez votre débat sur la sémantique du nom qui sera utilisé pour l'indemnisation accordée aux victimes. Soyez à l'aise, on a tous bien compris la stratégie fétide qui se cache derrière. Ayez au moins de nous faire l'économie de vos discours pharisiens et de vos belles publications. Vous devez payer pour tous ces crimes. Ce chiffre, il se compte en plusieurs milliards. La bonne nouvelle, c'est que votre fonds de dotation de 5 millions va permettre de construire tout le processus d'indemnisation dans un délai raisonnable pour toutes les victimes déjà identifiées par la CIAS. Vous en êtes là.
Et sur cette question de la réparation financière, François Devaux a le soutien tout entier de la Commission Sauvé.
Il faut réparer. Il faut réparer, dans toute la mesure du possible, le mal qui a été fait. Cela implique, à minima, pour les infractions qui sont prescrites, la reconnaissance de la qualité de victime des personnes, par une institution indépendante mise en place par l'Église. Cette reconnaissance de la qualité de victime paraît à la Commission bien préférable à un nouvel allongement des délais de prescription qui ne peut engendrer que des douleurs et des souffrances supplémentaires pour les victimes et se traduire par bien des déceptions. Car la vérité judiciaire, on le sait, ne fait pas toujours bon ménage avec la vérité tout court. Il faut indemniser les préjudices subis par les victimes, en dehors même de toute faute identifiée, caractérisée de l'Église, qu'elle soit pénale ou civile. Cette responsabilité, soyons clairs, elle ne peut pas être intégrale, mais cette responsabilité ne doit pas être forfaitaire. Ça ne peut pas être un barème aligné sur l'échelle des infractions et notamment l'échelle des crimes et des délits. Je voudrais dire à cet égard que cette question de l'indemnisation, ça n'est pas et ce ne peut pas, ça ne doit pas être un don. Dans l'esprit de la Commission, c'est un dû.
Trétiré, répondant au terme de la présentation du rapport Sauvé à une forêt de micros, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, a soulevé les difficultés financières posées par les recommandations de la SIAZ.
La SIAZ critique sévèrement ce que nous avions imaginé. Il faut que nous reprenions notre dispositif à la lumière des recommandations de la SIAZ. Nous verrons ce que nous pouvons faire, y compris dans la question technique, de savoir comment on peut mobiliser les sommes nécessaires.
C'est-à-dire que ça pourrait être...
Je n'ai pas de réponse aujourd'hui parce que c'est une question qu'il faut que nous travaillions tous ensemble. La réponse à cette question, elle se fera au fil du temps, en fonction de la complexité du sujet, étant donné le droit qui, en France, régit les associations diocésaines, et étant donné ce que sont la réalité de nos ressources, et que ce soit des fantasmes que certains peuvent avoir à leur égard.
Mais est-ce que l'Église a ces millions d'euros auxquels on estime le montant des indemnisations ?
Pour ma part, je ne crois pas, mais toutes sortes de gens sont persuadés que nous possédons des millions. Les sommes que nous avons, les ressources même et les réserves que nous avons, aujourd'hui, elles servent très largement à garantir le paiement des salaires que nous devons. Donc c'est pour ça que la SIAZ nous met dans une situation compliquée, juridiquement compliquée. Je ne sais pas si elle a complètement mesuré la difficulté juridique dans laquelle elle nous mettait, mais c'est un travail qu'il faut reprendre. Nous le reprendrons et nous verrons ce que nous pouvons faire. La SIAZ nous fait des recommandations. Le principe même des recommandations, c'est qu'il faut les recevoir avec sérieux, avec intelligence, mais aussi avec un certain discernement. Nous verrons bien ce que nous pouvons en reprendre.
De son côté, la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, par la voix de sa présidente, sœur Véronique Margron, se positionne davantage sur la ligne de la SIAZ.
Pour la COREF, nous avons dit depuis l'Assemblée d'avril que nous entamions une démarche de justice réparatrice. Cette démarche de justice réparatrice commençait par le rapport de la SIAZ pour faire la lumière sur les ténèbres, autant qu'il est possible de faire la lumière sur des ténèbres, et que la dernière étape de ce processus de justice réparatrice, qui s'inspire des processus politiques, des crimes de masse, est la réparation individualisée avec des médiations, afin que, autant qu'il est possible, les réponses apportées soient vraiment des réponses individuelles qui correspondent à ce qui peut soutenir bien concrètement la vie d'une personne victime, de ses proches.
Mais d'où vient l'argent ? D'où viendrait l'argent ?
Alors, pour les religieuses, c'est assez simple, si j'ose dire. L'argent viendra des congrégations religieuses elles-mêmes. Donc, pour nous, c'est assez facile dans notre organisation. Nous vivons grâce à l'argent de notre travail, de ce que nous faisons dans la vie. Donc, c'est les congrégations qui paieront pour les membres agresseurs de leurs instituts.
Et elles en auraient les moyens ?
Nous verrons au cas par cas. Mais en tout cas, nous n'imaginons pas une autre procédure pour le moment.
Et l'on referme ce reportage sur la remise du rapport de la SIAZ. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église par l'éloge de son président Jean-Marc Sauvé, des victimes qui ont eu le courage de parler.
Une conviction s'est pour nous imposée au fil des mois. Les victimes détiennent un savoir unique sur les violences sexuelles et elles seules pouvaient nous y faire accéder pour qu'ils puissent être restitués. C'est par conséquent leur parole qui sert de fil directeur au rapport de la commission. Au demeurant, si la chape de silence recouvrant les forfaits commis a fini par se fissurer, être fracturée et susciter une onde de choc et de soutien dans l'opinion, on le doit au courage des personnes victimes qui, surmontant leur souffrance, ont pris sur elles, en dépit de multiples obstacles, de dire ce qui leur était arrivé dans un cercle intime, puis auprès des responsables concernés, et enfin à la justice et au public. Sans leur parole, notre société serait encore dans l'ignorance ou le déni de ce qui s'est passé.
Cette sortie lente de l'omerta au sein de l'Église catholique depuis les années 2000, le prêtre jésuite, ancien directeur du Centre Sèvres à Paris et de la revue Études, Pierre de Charentenay, l'a très bien documenté dans son livre « Tolérance zéro, lutter contre la pédophilie dans l'Église » publié aux éditions Salvator. Il s'agit d'une synthèse inédite de ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Australie, au Chili et au Mexique, avec dans un premier temps le silence, les résistances de l'institution face aux révélations, puis la parole qui commence à être entendue grâce à la pression des médias. On retrouve à des degrés divers les dysfonctionnements décrits dans le rapport Sauvé qui parle de dimension systémique. On écoute Pierre de Charentenay.
Oui, je crois que c'est important de concevoir qu'il y a une espèce de schéma qui se répète dans souvent d'ailleurs avec une temporalité différente. Ce qui s'est passé aux États-Unis au début des années 2000 se passe aujourd'hui en Pologne. Alors on a le même système. Vous avez dit des victimes qui s'expriment, qui essayent de s'exprimer, mais qui ne sont pas entendues. Donc toute une opération de dissimulation et de lenteur, on va dire presque opération escargot de la part des évêques. Et puis il y a le rapport aux médias qui est très important. C'est-à-dire la victime va se dire, puisque je ne suis pas entendue par la hiérarchie, je vais aller aux médias. Donc c'est le cas aux États-Unis, au Chili, en Pologne. En Pologne, il y a eu des 2-3 films tout à fait frappants qui ont été faits. Et alors après, l'épiscopat est obligé de prendre ça en compte. Et puis, ça arrive jusqu'à Rome, où dans certains cas, sur certaines personnalités, tout est bloqué. On a vu l'histoire, la fameuse histoire du cardinal McCarrick, qui avait un passé de pédophile comme prêtre, qui a été nommé évêque, ensuite archevêque, ensuite cardinal de Washington. Et malgré les pressions du cardinal de New York, Dolan, de ne pas le nommer cardinal à Washington, il a été nommé cardinal de Washington par la demande expresse de Jean-Paul II. Donc tout ça monte à Rome et revient sur le terrain avec justement une sorte d'impossibilité de clarifier la situation.
Oui, Rome, avec un personnage qui revient quand même souvent, Pierre de Charentenay, c'est le cardinal Angelo Sodano, secrétaire d'État.
Ce cardinal était secrétaire d'État pendant 15 ans de Jean-Paul II, et il a connu un certain nombre de ces personnages qui posaient des problèmes, notamment Caradima au Chili. Il avait même sa chambre dans la paroisse de Caradima, qui était un homme qui a été connu ensuite comme un pédophile notoire. Et de même, il a bien connu le fameux Hermann Grohe, archevêque de Vienne, qu'il a défendu parce que son successeur, le cardinal Schönborn, voulait une enquête sur le cardinal de Vienne, qui avait une réputation d'avoir été pédophile étant prêtre, et c'est lui qui a empêché l'enquête. Donc il y a un problème, vous voyez, ça remonte jusqu'à Rome et c'est bloqué à Rome.
Effectivement, quand vous me parlez du cardinal Grohe, j'avoue que j'ai relu plusieurs fois le chiffre, un grand prédateur, 2000 enfants, de 1950 à 1980.
Oui, non, mais cette histoire est absolument abominable. Et alors, il s'est retiré à l'âge de 40 ans dans une abbaye bénédictine, et le pape Jean-Paul II est allé le chercher dans l'abbaye pour le nommer archevêque de Vienne. Alors, c'est la question. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'avait pas d'informations? Est-ce qu'il n'a pas voulu les écouter? Qui lui a donné des informations? Ça pose la question. À ce propos de ce cardinal, mais à propos d'autres nominations, McCarrick par exemple, comment sont faites les informations pour la nomination des archevêques et des cardinaux? C'est-à-dire, où va l'information? Qui est-ce qui la bloque et à quel endroit? Et je pense que c'est important à cette étape de réfléchir sur la manière dont la structure hiérarchique de l'Église jusqu'au sommet devrait aussi passer par une sorte d'audit général. Que s'est-il passé? Alors, ça a été fait une partie sur McCarry par la secrétaire d'État, qui a fait une étude de 450 pages où on voit la manière dont les lettres sont passées d'un endroit à un autre. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce que les lettres se sont arrêtées ici ou là. C'est ça qu'on voudrait savoir. Pourquoi ça s'est arrêté et pourquoi les enquêtes n'ont pas abouti jusqu'au bout.
Oui, vous réclamez quasiment un audit. Hein.
De la même manière que la CIAS a fait un audit formidable sur l'Église de France, ben, il faudrait faire un audit au niveau international sur la manière dont la curie romaine, la secrétaire d'État, a fonctionné pendant des années. Et quel a été le rôle du fameux cardinal Dziwisz, polonais, secrétaire de Jean-Paul II, derrière tout ça, alors qu'il a été témoin de victimes qui ont parlé devant le pape, Jean-Paul II. Et lui était derrière à écouter.
Est-ce que cela veut dire aussi que Jean-Paul II ne voulait pas voir, ne voulait pas entendre?
Alors ça, c'est une des grosses questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce que Jean-Paul II a laissé faire tout ça sans intervenir? Alors, on a toujours argumenté du fait que en Pologne, les accusations de pédophilie contre des prêtres étaient dues au régime communiste qui voulait dévaloriser ce prêtre. Mais enfin, avec le nombre de cas qui s'est posé, et les cas qui se posaient n'étaient pas dans des régimes communistes, donc évidemment, on s'interroge, on aimerait bien savoir.
Oui, effectivement, dans votre livre, Père Pierre de Charentenay, vous rappelez hein, donc ce film, Claire,
oui.
K-L-E-R, en 2018, c'est un électrochoc, il est vu par 5 millions de Polonais.
Oui, parce que il explique la manière dont un certain nombre de prêtres vivent réellement. Alors, évidemment, il prend des cas. C'est pas la majorité des prêtres. Je pense que la majorité des prêtres en Pologne vit comme beaucoup de prêtres dans le monde, c'est-à-dire très simplement et au service de la population et de leur paroisse. Mais il y en a quelques-uns qui courent après l'argent, toutes sortes de manipulations et entre autres la pédophilie. Et c'est ça qu'il souligne. Alors, l'image sur le clergé polonais a été catastrophique. Mais ça a quelque peu réveillé des évêques, mais pas très très lentement, très lentement.
Et puis ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a tout le lien avec Solidarność, vécu comme le syndicat libérateur hein, du communisme. Or, on apprend dans votre livre, Pierre de Charentenay, que le confesseur de Lech Walesa a été accusé d'abus sexuels.
Oui, oui, tout à fait. A été accusé avec des preuves et des victimes qui ont parlé. Donc, des grands personnages de Solidarność avaient des doubles vies, comme un certain nombre, comme le père Maciel au Mexique, le père Caradima au Chili. Tous ces personnages avaient des doubles vies complètement cloisonnées. Donc là, on a un problème. Comment la structure de l'Église n'arrive pas à percevoir qu'il y a un problème?
Les évêques sont toujours très bloqués Pologne pour faire la vérité.
Il y a une grosse évolution en Pologne.
Oui.
D'abord parce que 8 évêques ont été suspendus par le pape parce qu'ils avaient couvert des agissements de prêtres pédophiles. Donc ça évidemment, ça remue l'épiscopat polonais. Et puis le président de la conférence lui-même a dit qu'il fallait vraiment avoir une action décisive là-dessus. Donc je pense que la Pologne maintenant tout à fait au point de suivre l'ensemble des épiscopats américains et européens.
Alors, Pierre de Charentenay, sur cette grande synthèse hein, effectivement de la question de la pédophilie au sein de l'Église, dans divers pays, ce que je retiens aussi, hein, ce sont évidemment toujours des lieux d'éducation. Mais évidemment, c'est plus ou moins fort selon la puissance de l'Église. Par exemple, le Canada avait une Église très puissante, l'Irlande aussi, la Pologne, on vient d'en parler, et c'est là où, semble-t-il, les cas sont les plus nombreux.
Oui, c'est des lieux d'éducation, et c'est aussi dans le cas de l'Irlande, vous l'avez cité, Irlande, Canada et Australie, des lieux d'attention à des groupes de jeunes en difficulté, orphelins oui. Par exemple, ou ce qu'on appelle les nations premières au Canada, dont l'Église avait une sorte d'impératif de s'occuper,
les
pour les éduquer, les Amérindiens, pour s'en occuper et entre guillemets les occidentaliser, mais dans des institutions fermées. Et il n'y a rien de pire que des institutions fermées dans lesquelles ni l'Église ni l'État ne sont allés voir. C'est ça le problème. C'est qu'on a fait confiance à des organismes fermés sans aller voir. Donc sont coupables et l'Église et l'État de ne pas avoir été mettre le nez dans ce qui se passait dans ces institutions.
Vous décriviez tout à l'heure, Père Pierre de Charentenay, donc ce schéma, hein, c'est-à-dire ces victimes qui parlent, qui ne sont pas écoutées, puis à un moment donné, bon, les médias viennent effectivement à la rescousse pour les aider à parler de ce qu'elles ont vécu. Est-ce que on peut dire qu'il y a des pays où la prise de conscience a vraiment été bien avant les autres? Par exemple, est-ce que ce sont les États-Unis qui, dans ce domaine, on peut dire, ont commencé ce travail de purification, en quelque sorte, avant les autres?
Tout à fait. Il y a une périodisation de ces prises de conscience très forte. Aux États-Unis, c'est très clair. La première condamnation d'un prêtre a eu lieu en 1985. Donc, l'Église américaine était parfaitement au courant qu'il y avait des problèmes. Les grandes mesures de l'épiscopat américain datent de 2002. Les premiers rapports un peu généraux sur la situation américaine datent de 2004. Oui. Alors nous, on a sorti un rapport en 2021, ça fait quand même presque 15 ans de retard. Alors là, on a du retard par rapport à eux. Bon, les Irlandais ont aussi été obligés par la pression à avoir des rapports qui ont été faits en 2009 et 2010.
Par une femme juge, notamment.
Par la juge Murphy, qui est une personne tout à fait compétente. Et cet impact, disons, ce rapport a eu un gros impact. Mais c'est 2009-2010. Voilà, on est plus de 10 ans après, déjà. Donc c'est intéressant de voir comment il y a des pays, peut-être par la pression, par la gravité et par la pression des médias et de la population, ont agi plus vite. Et nous, on agit plus lentement. L'épiscopat français n'a bougé vraiment qu'à partir de 2016, hein, en créant des commissions spéciales, etc. Même si l'épiscopat avait publié dès 2001
un document.
Ouais. Pour aider les prêtres et les personnes en charge d'éducation à lutter contre la pédophilie. Donc déjà avec un certain nombre de consignes. Mais enfin, c'était un papier écrit qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Mais voilà, il n'y avait pas derrière tout un arsenal qui existe actuellement.
Alors, les conséquences pour l'Église, on voit qu'en Allemagne, il y a eu beaucoup d'abus en Allemagne, hein, notamment vous avez rappelé l'affaire de l'école Canisius de Berlin.
Qui est la première affaire qui a vraiment fait bouger les choses, oui. Parce que donc c'est une école jésuite, le directeur de l'école, ayant eu des rumeurs, a dit il faut agir, et donc il a envoyé un courrier à tout le monde. Et alors on a vu les victimes se lever et dire moi j'ai eu des problèmes,
moi aussi, j'ai eu des problèmes. Aussi,
oui. Et alors après ça a suivi, et ça se passe pas très bien. Parce que même le cardinal Marx, qui est quand même un homme extrêmement actif et très présent sur ces questions-là, a donné sa démission de cardinal, parce qu'il dit que ça n'avance pas. Donc il voulait créer un espèce d'électrochoc dans l'opinion de l'Église allemande pour qu'on prenne ça vraiment en compte.
Et les conséquences, c'est qu'il y a eu un certain phénomène, une certaine vague de débaptisés, c'est bien ça ?
Oui, alors la vague de débaptisation a plusieurs raisons. La pédophilie en est une, oui. Mais il y a d'autres raisons, qui est par exemple que l'Église ne veut pas ordonner des femmes. Donc cette question-là a beaucoup joué. L'ordination d'hommes mariés n'est pas possible. Et cette espèce de difficulté de l'Église institutionnelle à se réformer ou à proposer des réformes de fond a fait que les chrétiens, les catholiques allemands ont arrêté d'appartenir à l'Église.
En conclusion, Père Pierre de Charentenay, une des questions en tout cas, qu'on peut se poser. L'Église, donc, c'est les années 2000 hein, où elle commence effectivement à parler, hein, à sortir de l'omerta. Tout récemment, on a pu voir la vague MeToo au sein du monde artistique et puis des révélations d'emprises psychologiques et sexuelles dans les milieux français très protégés. Là, je pense à l'affaire Gabriel Matzneff, mais aussi des révélations d'inceste avec l'affaire Duhamel. Tous ces scandales donc sont arrivés après, effectivement, ce début de fin d'omerta au niveau des abus sexuels dans l'Église. Est-ce que vous estimez que, précisément, l'Église, en quelque sorte, sans le vouloir, a finalement ouvert la voie?
Je pense qu'elle a agi quand même assez lentement.
Oui.
Bon, mais dans le temps qu'elle a pris pour agir, se sont déroulés d'autres événements, comme l'événement MeToo et d'autres, et donc ils sont venus pour conjuguer une espèce d'action commune. Et finalement, l'Église a montré qu'elle était capable de prendre des moyens que d'autres institutions n'ont pas encore pris. Par exemple, aux États-Unis, tous ces rapports, ces fameux rapports, ou la CIAZ en France, c'est un type d'institution qui va presque faire modèle pour d'autres institutions. Et d'ailleurs, celui qui est chargé de l'enquête sur l'inceste a dit qu'il allait regarder de près les méthodes de la CIAZ, parce que ça l'intéressait. Donc là, on a à la fois on a une institution qui est lente, mais qui, quand elle a décidé de s'y mettre, le fait à fond.
Ou en tout cas, quand elle a été obligée de s'y mettre, oui. Plus exactement.
Non, oui, c'est oui. Ça. Quand elle a été contrainte, elle le fait vraiment à fond. Et je trouve que ça c'est intéressant.
Le dernier volet, l'Asie, l'Afrique.
Alors, ça va être très compliqué. L'Afrique et l'Asie vont être très compliquées parce qu'ils n'ont pas, sur les questions sexuelles, le même rapport que nous. Moi, j'étais longtemps aux Philippines et tout ça est beaucoup plus flou. C'est beaucoup moins juridique et il y a des traditions familiales et des choses comme ça. Donc, arriver à trancher dans des décisions qui doivent être en oui ou en non, c'est extrêmement difficile aux Philippines ou en Asie ou en Afrique. On fait pas ça. Donc, il faudra voir comment trouver une méthode. Mais on voit bien que c'est une autre culture dont les questions sexuelles sont vécues tout à fait différemment, y compris dans les familles.
Merci Pierre de Charentenay. Je rappelle donc Tolérance zéro, lutter contre la pédophilie dans l'Église, et c'est publié aux éditions Salvator. Merci. Comme vient de l'exprimer le père Pierre de Charentenay, la pédocriminalité en Asie, en Afrique, au sein de l'Église demeure un sujet difficile à aborder, en fait un sujet tabou. Avec nous en ligne d'Abidjan, le père Jean Messinguet, prêtre et psychologue. Mon père, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Je précise que vous êtes le directeur intérimaire de l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, donc à Abidjan, et que votre domaine de recherche, de prédilection, eh bien, c'est effectivement de promouvoir une culture de la protection des personnes vulnérables à l'égard donc des violences sexuelles. Donc vous donnez des formations, des séminaires, des conférences, et on en reparlera au mois de juin prochain, hein, du 16 au 18 juin 2022. Il y aura une grande conférence à Abidjan, une grande conférence internationale sur la question des violences sexuelles. Alors déjà, une première réaction, mon père, eh bien aux chiffres donnés par la commission Sauvé, des chiffres effectivement assez effarants. Comment vous avez réagi, vous, au résultat de cette commission ?
Immédiatement, en écoutant les rapports sur YouTube et KTO, j'étais choqué quand même de voir les chiffres. Je ne m'attendais pas à ces chiffres. Il y a eu ces chocs, mais en même temps, j'ai ressenti du soulagement plutôt en regardant la démarche d'humilité que l'Église entreprend. Il a fallu du courage, il a fallu accepter l'humilité et même les humiliations pour que l'Église décide de commanditer une commission indépendante, tout en sachant qu'on peut bien arriver à de tels résultats. Donc, je pense pour moi que ces résultats peuvent constituer un véritable départ pour la renaissance et le renouvellement de notre Église.
Père Jean Messinguet, une telle commission est très peu probable au niveau du continent africain. Est-ce que vous, malgré tout, vous dites des chiffres comme cela, est-ce que c'est possible en Afrique, des chiffres aussi importants de violences sexuelles à l'égard des mineurs, à l'égard des personnes vulnérables, pourquoi pas aussi à l'égard des religieuses d'ailleurs?
Je pense que c'est possible. L'Église d'Afrique ne peut pas prétendre être meilleure que l'Église dans d'autres pays. Cette réalité qui affecte l'Église, qui affecte la société, elle est globale. Une enquête réalisée à l'échelle nationale en 2018 en Côte d'Ivoire par l'Institut national de statistiques a révélé que parmi les enfants âgés de 13 à 17 ans, 16% des filles et 7,3% des garçons ont subi de violences sexuelles pendant les 12 derniers mois. Environ une femme sur 5 et un homme sur 9 ont subi de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Donc, voilà quelques chiffres qui nous aident à sentir la réalité des violences et d'abus sexuels sur les enfants dans la société en général.
Père Jean Messinguet, très important donc cette rencontre, hein, cette conférence internationale donc du 16 au 18 juin 2022 à Abidjan sur donc les violences et les abus sexuels donc sur les enfants, les femmes, enfin toutes les personnes vulnérables. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous pensez effectivement qu'une conférence comme celle-là peut lever les pesanteurs sociales, les pesanteurs culturelles sur cette question des abus?
C'est notre rêve. C'est l'objectif que nous poursuivons. Et je pense que créer un espace de réflexion publique peut avoir un impact. Ça veut déjà dire que nous, on brise le tabou s'il y en a. On brise le silence s'il y en a. Et deuxièmement, si nous axons justement la conférence sur des données, sur des recherches, c'est pour pouvoir mieux convaincre ceux qui, pour une raison ou l'autre, hésiteraient. D'autre part, nous voulons aussi comprendre. Vous voyez, nous avons centré la conférence sur le rôle des normes culturelles, des croyances et de l'environnement humain. Nous voulons comprendre d'une part comment ces indicateurs-là, ces facteurs-là influencent la prévalence des abus, de la violence, mais aussi comment les initiatives en vue de mettre fin à ces violences doivent tenir compte de ces facteurs-là. Parce que il y en a effectivement qui disent c'est pas notre affaire, ou encore, on a besoin d'une approche spécifique à l'Afrique. Parce que beaucoup veulent qu'il y ait une approche peut-être plus contextuelle.
Et vous, quel est votre...
C'est un cadre qui va inviter à réfléchir.
Et vous, quelle est votre approche, vous? Est-ce qu'il faut effectivement tenir compte de l'environnement culturel, social, africain?
Je suis très, très contextuel. Une approche aussi systémique et relationnelle. J'invite au dialogue pour amener les gens à réfléchir, à s'exprimer et à chercher ensemble. Parce qu'on est encore à une phase où les gens doivent prendre conscience, en fait, de la réalité. Maintenant, j'avoue que l'approche de l'Église, au départ, qui condamnait directement les prêtres, les agents pastoraux, avec raison. Mais c'est difficile de condamner immédiatement une personne et compter sur la personne pour mettre en place un système de protection ou encore une politique de prévention. Donc, comment créer un espace où les gens se sentent invités, pas montrer du doigt, mais un espace où nous reconnaissons tous ensemble un problème et c'est notre responsabilité. Parce que certains prêtres se disent, mais c'est-à-dire, je m'engage dans une affaire pour que je sois condamné. Vous voyez un peu, une approche purement légaliste, c'est pas sûr que ça pourra réussir immédiatement ici si on n'intègre pas cela. Deuxièmement, mon approche, c'est plus l'approche partir du bas vers le haut, pas le top-down. Donc, comment on travaille avec tous les partenaires de l'éducation? Comment on travaille avec les parents? Comment même on implique les enfants? C'est-à-dire, surtout les gens qui sont à partir de l'âge de 10 ans, 11 ans, comment on implique? Pour qu'il y ait une approche plutôt communautaire. Je dirais que la question de la protection des enfants et des personnes vulnérables, que ce soit dans l'Église ou la société, est un processus de changement et de transformation culturelle, de pratique et de mentalité. C'est vraiment un processus. Et c'est l'Afrique, surtout au niveau de l'Église, vient de rentrer dans cette dynamique. Il s'agit d'accompagner l'Église et la société dans ce processus.
Je vous remercie, Père Jean Messinguet. Donc, je rappelle, hein, du 16 au 18 juin 2022, donc, cette grande conférence à Abidjan, donc, sur les violences et les abus sexuels, une conférence qui pourra être suivie en ligne. Je vous remercie, mon père. Merci. Dernier intervenant de notre émission sur la pédocriminalité dans l'Église, un prêtre jésuite, le père Patrick Goujon, professeur d'histoire de la spiritualité au Centre Sèvres et les facultés jésuites de Paris, qui raconte son histoire d'agression sexuelle par un prêtre dans son enfance dans un petit livre « Prière de ne pas abuser » publié aux éditions du Seuil. Père Patrick Goujon, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Je commencerai par les premières lignes de votre livre. J'ai retrouvé la parole alors que j'ignorais en avoir été privée. Enfant, j'ai été abusée par un prêtre pendant plusieurs années. Il m'a été donné un jour de me le dire à moi-même, puis de parler. Je n'avais pas imaginé que cela aurait été si bienfaisant. Il m'aurait fallu croire que la honte n'était qu'un fantôme, qu'elle n'était en rien en comparaison de la paix à se libérer des entraves. Je ne savais pas que je m'étais tue. Pour écrire ça, il faut combien d'années ?
4 ans.
De prise de conscience.
4 ans de prise de conscience après 35 ans d'amnésie traumatique.
D'amnésie traumatique. Et d'ailleurs, ce qui m'a effectivement surprise, mais j'ai commencé à comprendre, ce livre est dédié à l'équipe consultation douleur chronique de l'hôpital Paris-Saint-Joseph.
Ah oui, ils m'ont sauvé la vie parce qu'ils m'ont appris à prendre soin de moi autrement. Prendre soin de mes douleurs physiques, puisque je suis allé les consulter pour cela. Et parce qu'ils ont réussi à faire baisser ces douleurs quasiment sans médicaments, alors que j'étais à plus de 35 ans d'anti-inflammatoires, d'opioïdes et que rien ne passait. Une nouvelle manière de me situer grâce à eux face à mes douleurs, et le fait que ces douleurs diminuent enfin, a fait revenir la mémoire.
C'était insupportable. Vous aviez un mal de dos.
Ah, c'est oui. Alors, c'est vrai, quand on dit un mal de dos, voilà, c'est tellement banal et courant. Moi, c'était, ça en était arrivé à des paralysies. Je suis tombé dans la rue. Les traitements les plus forts d'antidouleur ne réussissaient absolument plus rien. Et ça, depuis des années et des années.
Parce que la parole.
Ne venait pas.
Ne venait pas.
Ouais. Le cri était bloqué dans mes vertèbres.
Et du coup, votre caractère s'en ressentait, ce que vous écrivez, vous n'étiez pas toujours aimable.
Je finissais par être moi-même en colère, oui.
C'est à quel âge que ces événements se sont passés ?
Je suis agressé à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, pendant 4 ans, régulièrement. Ce prêtre n'était pas le prêtre régulier de la paroisse, il passait de temps en temps le dimanche, et voilà, juste avant la messe, dans la sacristie.
Et vos parents étaient au courant ?
Non, j'ai jamais...
C'était impossible.
J'ai jamais parlé, en fait. J'ai jamais pensé que je pouvais parler. À l'adolescence, quand j'ai compris ce qui m'était arrivé enfant, moi, je cherchais à savoir ce qui était devenu ce prêtre, où il était. J'ai même essayé une fois l'autre de le saluer quand je le croisais dans la rue, et là, il me fuyait. Un jour, j'ai essayé de demander des nouvelles, je raconte ça dans mon livre, à un prêtre du diocèse qui était en responsabilité, et je lui ai dit, voilà, et un tel, que devient-il ? On m'a fait une réponse évasive, et là, sans que je décide absolument rien, j'ai glissé dans le déni, j'ai glissé dans l'amnésie. C'est très curieux. J'ai rien décidé, et du jour au lendemain, c'est comme si rien ne s'était passé.
Oui, vous écrivez, Père Patrick Goujon, que la mémoire est en quelque sorte explosée à ce moment-là.
Ah oui. C'est très curieux comment le déni traumatique, c'est à la fois une protection, c'est-à-dire le fait qu'on ne s'en souvienne plus permet de passer à autre chose, de grandir, et j'ai pu avoir une enfance aussi qui m'a permis de grandir, de devenir l'homme que je suis, mais voilà, ça ne fait pas disparaître en réalité, ça l'enfouit, ça le met dans les replis de la mémoire, et ça fait surtout un travail de sape, de destruction du corps et aussi de la psyché, oui.
Oui, vous dites effectivement, les abus tuent, ils détruisent à petit feu.
Exactement. C'est redoutable et c'est peut-être, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire, parce que moi-même, je le dis, hein, je n'avais pas imaginé qu'un adulte pouvait, 30, 40 ans plus tard, souffrir de ce qui lui est arrivé dans son enfance. Et en réalité, au lieu que les douleurs s'atténuent, en réalité, la souffrance augmente. Avec l'âge.
L'inflammation montée.
Donc les séquelles la définition de la séquelle, c'est ça peut apparaître plus tard, mais c'est vraiment ça. Et ça explique le fait que les victimes parlent si longuement après. On a beaucoup reproché ces derniers temps, notamment autour de l'affaire Barbarin, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui se mettent à parler 30 ans, 40 ans après
70 ans, etc.
Ils en veulent à l'Église. Ah mais non, c'est le temps qu'il faut à la parole pour se former, pour naître. C'est inouï.
Reconstituer ce puzzle, tout est éclaté.
Tout est éclaté, ça demande une énergie, mais bon, je ne suis pas un grand sportif, un alpiniste, etc. Mais pour moi, c'est vraiment de l'énergie comparable à une ascension en montagne.
La honte, la souillure.
Ah oui, alors ça colle à la peau. D'abord, il faut prendre conscience. C'est ça qui a été pour moi essentiel, je le raconte aussi dans ce livre. Progressivement, j'ai décodé qu'un certain nombre de mes comportements, de mes choix, de mon tempérament de fond, était une manière d'échapper à la honte qui me faisait barrage dans ma vie. Alors, ça c'est vraiment redoutable. Alors, le jour où j'ai compris, grâce à une psychothérapie, que cette honte, c'était le cadeau empoisonné que faisait l'agresseur à la victime, c'est-à-dire comme s'il vous transmettait ce qui devrait être sa honte. Et c'est vous qui portez sa honte, c'est la victime qui porte sa honte. Alors ça m'a aidé à en prendre conscience. Après, s'en débarrasser, là aussi, je crois que c'est le temps de la vie.
Mais alors, pour prendre conscience que vous avez été victime, ça n'est pas simple. Il fallait à chaque fois légitimer dans ce chemin de reconnaissance à vous-même. Oui. Il fallait à chaque fois légitimer. Oui, j'ai bien été victime. Ah, oui. Vous le répétez, vous le redire, ah, oui. Avoir des preuves.
Ah oui, ça a été une des étapes importante dans le fait de porter plainte. J'ai attendu, au fond, d'avoir des éléments par l'enquête. Bon, comme il y a eu prescription, ça a été... Vous n'obtenez aucun élément. Hein, voilà. Donc, je porte plainte en 2017. J'ai l'avis de classement en 2020 et je n'ai aucun élément, si ce n'est de petites informations que l'évêque du lieu a bien voulu me donner. Mais heureusement qu'une enquête a été rouverte.
À Rome ?
Non. Oui, alors certes, maintenant ça n'apporte absolument rien et de toute façon la victime n'y a pas accès. Donc voilà, ça fait partie des réformes canoniques ecclésiales absolument nécessaires à apporter. Mais non, il y a une commission rogatoire qui est en cours en fait et comme partie civile, j'ai pu avoir accès au dossier. Et enfin, pour la première fois, au bout de 5 ans, j'ai eu des éléments qui ont confirmé ce que, dans ma mémoire, j'avais pu reconstituer, mais où j'avais eu pendant 5 ans, j'allais dire presque régulièrement, cette question, mais est-ce que c'est vrai? Cette histoire qui est la mienne mais m'a été étrangère pendant si longtemps. Et alors, heureusement, grâce à la détermination d'un juge d'instruction et de la police et de la gendarmerie de la Meuse, eh bien, j'ai pu, comme victime, dans le cadre d'une commission rogatoire, donc je peux rien dire, mais accès à ce dossier. Mais ça a été à la fois le plus beau jour de ma vie, d'avoir la confirmation de ce que ma mémoire d'enfant blessé a pu reconstituer. Et en même temps, pour moi, un effondrement total. J'ai été malade 3 mois cet été, après avoir lu ce que j'ai lu.
Je vais vous poser la même question que vous a posée une jeune femme policière, ce que vous racontez dans votre livre « Prière de ne pas abuser », père Patrick Goujon. C'est comment avez-vous pu désirer devenir prêtre après ce qui vous est arrivé?
Ben, j'allais dire, ça reste pour moi une question, mais ce que je peux dire, c'est que tout d'abord, quand j'ai moi reconnu les faits de l'agression contre moi, je me suis reposé cette question. Je suis prêtre, je suis jésuite depuis plus de 25 ans, et j'y suis heureux, mais je me suis dit, bon, Patrick, il faut que tu regardes en face pourquoi tu es là. Mais j'ai aussi essayé de reconstituer cette histoire sans me raconter d'histoire précisément. Mais ce que je peux dire, c'est que enfant, j'ai eu la chance de rencontrer des prêtres formidables. Et puis surtout, voilà, j'ai une foi en Dieu, dans ce Dieu qui n'est pas le Dieu parapluie, comme je dis parfois, mais le Dieu lui-même blessé. C'est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu crucifié. Eh bien, c'est celui qui dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu. Ben oui, ben ce Dieu-là, pour autant qu'on puisse le dire, je le connais un peu, et en tout cas, c'est lui qui me tient.
C'est un Dieu abîmé pour vous, effectivement, ah oui. par ses prédateurs.
C'est le Dieu victime.
Mm-hmm. L'Église, vous lui en voulez ?
Non, je ne lui en veux pas, mais je suis un homme déterminé à ce que le rapport de la commission sauvée soit lu, reçu, étudié, et qu'on ne commence pas dès maintenant à fermer les portes aux recommandations. Ça ne veut pas dire qu'il faudra faire... Ce qu'a bien dit Jean-Marc Sauvé, il n'exige pas à l'Église quoi que ce soit, mais que nous avons une exigence morale de prendre en compte chacun des éléments et de les étudier. Évidemment, ils nous remettent en cause et en question, mais cette remise en cause et en question est absolument nécessaire si l'on veut vivre.
Je vous remercie. Père Patrick Goujon, donc je rappelle le titre de votre livre, « Prière de ne pas abuser », et il est publié aux éditions du Seuil. Merci pour votre témoignage.
Merci Geneviève.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.